Bonjour à chacun. Il n'y a pas que la chaire pastorale, comme on l'appelle, qui a changé. Depuis ce dimanche, il y a une lumière derrière la croix et j'aime beaucoup. Je trouve que l'effet est réussi. On peut vraiment bien comprendre, bien mettre en valeur cette croix. Ma femme est très intentionnée. Nous avons eu un repas de famille hier soir à l'extérieur, puis elle n'arrêtait pas de me dire « Ça va ? Tu veux qu'on rentre pas trop tard ?» Et puis en partant hier soir, en allant au lit, elle me dit « Ça va, tu vas réussir à dormir ?» Et puis ce matin, elle m'a dit « C'était pas trop agité ton sommeil ?» J'ai bien dormi. Qu'est-ce qu'un vieux pasteur comme moi, après 43 ans de pastorat, j'inclus les 3 années de stage dans le cadre de l'Union des Églises Évangéliques de Réveil, où c'est 3 ans, qu'est-ce qu'un vieux pasteur comme moi veut dire, peut dire, dans son dernier message en tant que pasteur d'une communauté? J'ai à cœur ce matin de parler de l'Église. Je ne vous choque pas, je ne vous surprends pas, j'imagine. J'ai envie de parler de l'Église parce que c'est le projet du Seigneur. Le samedi 23 avril, nous étions réunis avec un couple de la communauté, personne avec qui nous avons une bonne proximité, et ils sont venus avec 2 questions principales. Le mari me disait, mais donc c'était vraiment leur sujet. Pourquoi l'Église? Et puis l'épouse disait, quelle est ma place dans l'Église? Donc j'ai trouvé intéressant ces 2 questions. Pourquoi l'Église? Et quelle est ma place dans l'Église? Et ce fut un moment de qualité et j'ai acquis ce matin-là, en fin de matinée, que c'était le thème que je devais apporter pour ce dernier message. Toute ma vie professionnelle, oui j'avais fait une formation de tapissier décorateur, mais ma vie professionnelle, en tant qu'adulte, dans la vie active, toute ma vie professionnelle durant 43 ans, a été de vivre l'Église et de vivre en Église. Et de servir l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'on peut vivre l'Église sans prendre notre place, notre part, sans exercer nos dons. Nous allons lire le texte qui s'impose à nous ce matin. Matthieu 16, 13 à 20. Je vous demande d'emblée pardon, c'est pas très grand, mais j'avais envie que pendant tout le temps, je ne sais pas si tu as trouvé. Ah, voilà, elle va peut-être. Tu vas suivre un petit peu, très bien. Alors, volontiers, elle va suivre. Merci beaucoup, Rose Blanche, d'avoir agrandi. C'est top. Et aussi peut-être pour la prédication, tu pourras revenir verset après verset volontiers. Je n'avais pas envie d'avoir toute la trame devant mes yeux ou devant vos yeux. Je ne suis pas venu avec le résumé ce matin. Je vous l'enverrai. Je demanderai à Noël de vous envoyer le texte qui est prêt. Comme souvenir, et vous en ferez ce que vous voulez. Matthieu 16, 13 à 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, sur ce rocher, ça dépend des traductions, je bâtirai. J'ai gardé dans la version second classique, où je construirai dans second 21 mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Un entretien entre Jésus et les siens. C'est ce à quoi nous assistons dans cette lecture. Une conversation. Jésus a eu souvent des conversations pendant ses 3 ans de formation continue avec ses 12 apôtres. Une conversation entre Jésus et ses proches. Je crois ce matin, et c'est vraiment une pensée que j'ai reçue au tout début pour ce message, je crois que nous sommes invités à avoir une conversation avec Jésus. Une conversation à la fois privée, une conversation entre Jésus et toi, mais aussi une conversation communautaire. Non pas pour mettre les pendules à l'heure, mais pour... Peut-être un recentrage, un soulignement, un rappel des priorités, une conversation communautaire entre le Christ et la petite église locale évangélique de Cossonay. Nous terminons en ce moment une étape communautaire. Puis nous allons entrer dans ce qu'on a appelé une transition. Et ensuite, vous entrerez dans une nouvelle étape. Nous entrons, votre nouvelle étape est différente que la mienne, mais nous entrons tous dans une nouvelle étape. Marc Gallet a dit dimanche dernier, c'est à la fois une continuité, je ne pense pas que vous voulez tout remettre en question, c'est à la fois une continuité et en même temps, c'est un changement. Nous avons lu ce texte, qui est une conversation. Et Jésus pose des questions aux siens. Qu'est-ce que le monde dit en ce qui me concerne? Et l'autre question, qu'est-ce que vous, vous dites de moi? Au verset 13, et donc on peut remettre Rose Blanche, on va suivre à mesure, je dirais, verset 13. Au verset 13, qui dit-on que je suis? Et ça, c'est la première question que Jésus pose. Pour parler de l'Église aujourd'hui, il faut comprendre les questions que les gens se posent concernant Jésus, mais aussi que les gens se posent concernant l'Église. On avait l'inauguration, on n'a pas eu plein de voisins qui sont venus, mais on a eu quand même des voisins, entre autres, des voisins directs dans l'immeuble ici d'à côté, qui étaient là dimanche, avec qui j'ai eu une longue conversation. Et ils se sont posés plein de questions. Qu'est-ce que les autres disent de moi? Qu'est-ce que le monde dit de moi? Il pose cette question à ses disciples. Jésus les questionne sur sa réputation. On peut dire que sa renommée était plutôt bonne, à en croire le compte-rendu des disciples. Puisqu'ils diront plutôt, eh bien écoute, on a fait un micro-trottoir, on a fait un stand contact au marché de Cossonay, c'était plutôt réussi, on a un bon résumé à te faire, tu vas être content Jésus. Vous savez qu'à l'époque, on n'était pas dans une période, païenne, Les gens étaient religieux, il y avait une soif religieuse, les juifs, pour la plupart, étaient pratiquants. Alors les gens ont dit, mais sur Jésus, bien sûr, c'est quelqu'un de bien. C'est peut-être Jean-Baptiste, ou c'est Élie, ou Jérémie, ou l'un des prophètes. En fait, la réponse, beaucoup le considéraient comme un excellent prophète, pour eux des temps modernes, puisqu'on entrait dans une ère nouvelle. Et si on posait cette même question ici, au marché de Cossonay ou dans nos contacts avec les régionaux, qu'est-ce que nos semblables diraient concernant Jésus? Je dis bien, leur poser la question. Qu'est-ce que vous dites sur Jésus? Que pensez-vous de Jésus? Il est probable, vous savez, des fois, ils font un sacré règlement de compte, nos contemporains, sur l'Église dans son histoire. L'Église qui s'est divisée avec les scandales. Je pense qu'ils seraient assez sévères sur le parcours de l'Église avec E majuscule. Mais sur Jésus, même si parfois ça les heurte quand on commence à témoigner de Jésus, mais si on leur pose la question à eux, je pense qu'ils diraient, c'est quelqu'un de bien, c'est un pacificateur, c'est un homme inclusif, c'est très moderne aujourd'hui le mot. Au lieu d'exclure, il accueillait une approche inclusive de Jésus, un porteur d'amour, avec des paroles tellement réconfortantes, un regard tellement sans jugement. J'ai écouté un interview avec la femme de l'animateur TV décédé, très connu, Jean-Pierre Pernaut. Il est parti il y a quelques petits mois, 3 mois je crois. Et elle a dit, cette femme, tout le bien qu'elle pensait des voyants, voyantes, spécialisées pour communiquer avec les morts. Et elle-même, elle communique avec les morts, avec son mari défunt, elle dit qu'elle lui parle. Je ne suis bien sûr pas d'accord avec ses convictions. Mais je trouve important quand même de poser la question aux autres. Pas seulement qu'on soit en autarcie. Poser la question aux autres. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Elle m'a touché. Elle avait tant besoin d'espérance, comme elle le disait, pour l'au-delà. Tant besoin de signaux, disait-elle, pour la vie après la vie. Voyez-vous, si Jésus pose cette question, c'est pour dire que l'Église s'inscrit toujours dans un aujourd'hui. On n'est pas hors, on est dans l'aujourd'hui de Dieu. Dans un monde profondément aujourd'hui qu'on appelle postmoderne, déchristianisé, mais qui a un immense besoin de spiritualité. Au verset 15 maintenant, « Et vous ?» « Qui dites-vous que je suis ?» Et là, ça commence à se préciser. Je me suis demandé, mais pourquoi Jésus propose une conversation comme celle-ci? Il va parler de l'Église, mais avant d'en parler, il questionne. Il aimerait d'abord un petit peu savoir ce qui se passe en nous. « Quel est, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Oh, je suis persuadé que nous avons tous la répartie pour dire qui est Jésus. La question paraît simple. On n'est pas emprunté pour répondre. En théorie, on peut répondre assez facilement. Mais ne pensez-vous pas, comme l'apôtre Pierre, que nous avons besoin d'apporter une réponse au Seigneur qui vient droit de notre cœur. Pas seulement une réponse cérébrale, mais on tape un peu sur la tête. Ça va juste dans le cœur. Et ça se transforme en esprit de révélation qui vient du Saint-Esprit et qui nous permet de confesser avec notre cœur qui est Jésus pour nous. Le vieux pasteur que je suis maintenant, même si je me sens encore relativement sportif, j'ai besoin d'une nouvelle révélation de Jésus. L'Église évangélique de Cossonay a besoin d'une nouvelle révélation de Jésus pour la suite. Chacun d'entre nous. Quelle est ma réponse? Qui est Jésus pour moi ce matin, réellement? Quelle est ta réponse? La réponse de Pierre. Simon Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va cette fois valider en disant, c'est très bien Pierre, mais ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas ta religiosité. Ce n'est pas parce que tu as 20 ans de conversion. Ce n'est pas parce que tu sais expliquer les autres. Tu viens d'avoir une révélation. C'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Et j'avais vraiment cette pensée qu'on a besoin, comme tout à nouveau, d'une nouvelle révélation de qui est Jésus. Je crois que nous sommes si souvent, parce que si nous avons une révélation de qui est Jésus, et que c'est fort en nous, ça change notre comportement, ça change notre témoignage. On attrape une assurance, on n'a plus du scotch sur la bouche, on ose partager. C'est tellement fort. On en est tellement convaincu, on a rencontré le Christ et on a envie de parler de lui. Nous sommes si souvent intimidés par ce monde ambiant, nous n'osons pas assez dire que nous sommes chrétiens. Les questions de Jésus qu'il pose à l'église évangélique de Cossonay. La deuxième pensée, c'est l'appel de Jésus au verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et il va faire un jeu de mots, le Seigneur. C'est-à-dire, il est en train de lui dire, Pierre, tu es seulement Pétros. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Toi, tu es Pétros. Tu es le petit Pierre. Et moi, je suis Petra. Je suis le rocher. Et c'est une autre pensée que je vous laisse. L'église évangélique de Cossonay a besoin de considérer comme tout à nouveau que son avenir repose sur Petra, sur le rocher solide. Il n'y a aucune variation. Jésus appelle Pierre pour une mission spéciale. Oh, non pas pour devenir Pierre, comme nous l'avons entendu dans l'histoire, le premier pape des chrétiens, mais le premier petit pasteur de l'église de Jérusalem. Et il pourra dans sa tâche s'adjoindre les autres apôtres, et on semble compter admirablement sur la fidélité du rocher, sur la fidélité de Petra. Vendredi matin, en me réveillant, j'ai reçu Jean 16, 13, quand le défenseur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. J'ai commencé ma journée vendredi dernier avec ce verset. Et le Seigneur me disait, mais pour la suite, je vais conduire cette église. Je n'en doutais pas. On vient de passer une très bonne semaine de passage de témoins avec mon jeune collègue Johan. Je vous le recommande. Il m'a touché cet homme, dans sa simplicité, dans son ouverture, dans ce que nous avons vécu ensemble, dans le bureau, parfois à la porte fermée, où on s'est parlé, on a prié, on a partagé, entre deux collègues, un vieux et un jeune. Et on avait tous la même aspiration, compter sur le grand pasteur, compter sur Petra. En vérité, littéralement, Jésus est en train de dire que malgré sa trahison à Pierre, il l'a trahi pas 15 ans auparavant, c'est relativement récent, malgré sa trahison, il lui dit, tu es Petros, Pierre. On peut remplacer Petros par ton prénom ce matin. Tu es Petros, tu es un petit Roland, une petite Andrea. Je vais prendre nos deux prénoms. Mais tu peux t'asseoir. Tu peux te reposer, tu peux t'appuyer sur Petra. Et c'est tout le bien que je souhaite à l'église évangélique de Cossonay. L'appel de Pierre a été d'être un implantateur d'église juste après ce réveil de Pentecôte. J'arrive à mon côté pointu ce matin. L'église n'est pas une invention humaine, mes amis. Bien sûr que le week-end dernier, on a surtout valorisé tout ce qui s'est fait, l'architecte, les entreprises, la commission construction, un remarquable boulot, avec des gens très compétents. Mais l'Église, en tant que telle, n'est pas une invention humaine. C'est le choix de Christ. C'est lui qui a dit « Je bâtirai mon Église. Et sur cette pierre, je la construirai. » L'Église ne repose pas sur Pierre. Elle ne repose pas sur vous. Heureusement, c'est un soulagement. Elle ne repose pas sur moi. Moi, je vais quitter, j'ai envie de dire, en toute bonne conscience, non pas parce que j'ai fait tout juste. Il y a des bonnes choses, des moins bonnes. Il y a des erreurs dans mon parcours. Vous avez apprécié, parfois vous m'avez supporté. On a nos limites. Mais l'Église repose sur le Christ. L'avenir de notre Église repose sur le rocher des siècles. L'appel de Jésus, c'est de vivre en lui et à travers lui. Lui, le rocher. Vivre notre appel grâce à lui. La troisième chose, c'est de vivre en Église pour vivre l'Église. Et là, j'ai un autre verset qui m'est venu, c'est Matthieu 18, 20. « Si deux ou trois sont assemblés en mon nom. » Et là, j'aimerais souligner trois choses fondamentales pour rappeler, selon mes critères, ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. Et on reste au verset 18. « Se rassembler, célébrer, sortir et annoncer. » Se rassembler. Je recevais une pensée et je ressentais que le Seigneur a été triste pendant ce temps de directives sanitaires où on ne pouvait pas se retrouver. Il y avait une certaine tristesse de Dieu, je le crois, parce qu'il aime tellement quand ses enfants se retrouvent. Je compare cela à un repas de famille. Il aime tellement quand on se retrouve. Moi, si on a quatre enfants, on a plein de petits-enfants. S'il en manque quelques-uns, s'il manque deux de mes grands puis deux de mes petits-enfants, ça va aller. Mais ce n'est pas ce que je souhaitais. Parce qu'ils comptent tous, sans exception aucune. Tout récemment, j'étais dans un magasin optique pour changer mes lunettes. Il y a la lumière de la croix, puis il y a un changement optique. Et j'ai vécu quelque chose de très fort. J'ai vu une dame, je pense de mon âge, qui est venue, bien sûr, dans un magasin optique, ce n'était pas pour acheter du lait. Elle est venue pour choisir une nouvelle paire de lunettes. Et vous savez la particularité? Elle est venue accompagnée. Elle est venue avec sa fille, d'un certain âge, avec son petit-fils, sa fille, avec sa petite fille, mais déjà d'une vingtaine d'années, et son petit-fils de 10-12 ans. Et ils ont pris un temps certain, moi aussi j'étais là parce que je devais acheter, contrôler, ça m'a pris une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, et ils n'étaient pas très loin. Et en fait, ils sont venus en famille pour choisir des lunettes pour la grand-maman. Eh bien, pour moi, cette image, elle montre un petit peu comment Jésus nous voit. Il nous voit réunis, les uns avec les autres, dans cette dimension intergénérationnelle où chacun compte. On se rassemble autour de qui il est, autour de sa personne. Combien de fois j'ai utilisé dans mon bureau un puzzle, il a 500 pièces, et j'avais même fait un découpage pour une pièce en montrant, j'avais mis quelque chose en blanc, je crois, puis de loin, ça faisait comme s'il y avait un trou dans l'effet optique. Et je disais à ces personnes qui avaient tendance à dire mais moi je compte pas, j'ai pas ma place dans l'Église, que il y a une tristesse de Dieu parce que chacun a sa place. Vous avez beau mettre 499 pièces, il manque la dernière pièce. Chacun a sa place. Non pas parce que toi tu donnes une place à l'autre, mais parce que Jésus donne une place à chacun dans son Église. Imaginez la joie que cela procure de nous voir tous réunis le dimanche matin autour de sa personne. J'ai souvent entendu des personnes dire « Ah, mais moi, j'ai plus trop besoin d'aller à l'église, j'ai le culte en streaming, puis c'est sympa, je prends une bonne douche, puis après je me mets dans mon coin salon, et puis mes pieds devant, et puis je mange mon croissant, et puis j'ai été écouté, Mulhouse, c'était très bien. Ah, j'ai vécu un de ces bons cultes. » T'as pas vécu le culte. Je m'excuse, tu n'as pas vécu le culte. Tu as vécu un enseignement. Tu as été en communion avec des frères et sœurs au loin, mais tu n'as pas vécu le rassemblement. Le Seigneur ne veut pas une église virtuelle. Il veut son corps réuni. Le projet de Dieu, une relation verticale et horizontale. La deuxième pensée que j'ai reçue pour l'église, c'est célébrer. Nous voulons au culte pour lui rendre un culte. Là aussi, j'ai souvent entendu des personnes dire « Ah, je me suis fait du bien ce matin. Ah, la louange, c'était mieux que dimanche passé. » Et puis alors, en arrivant, on m'a même offert 2 cafés ce matin. Je me suis senti aimé. Mais c'est très bien tout ça. J'oppose pas. Mais on ne vient pas d'abord au culte pour se faire du bien. On vient au culte pour rendre un culte à Dieu, pour lui faire du bien à lui. Ça change notre paradigme, ça change notre vision des choses. C'est pour ça qu'on n'est pas en train de dire « j'y vais ou j'y vais pas ». Je me tâtonne, je regarde mes états d'âme, j'ai envie, j'ai pas envie, je me retourne dans mon lit. Non, je me lève, je prends ma douche et j'y vais. Parce que je veux réjouir le cœur de mon Dieu avec mes frères et sœurs. Je veux prendre ma part pour le louer et le célébrer. Et la troisième pensée, annoncer. Je crois que nous avons surtout par le passé cherché à vivre l'Église par rapport à une définition qui n'était pas fausse. Ça va surprendre certains, les plus âgés parmi nous. Ce n'était pas une définition fausse, vous verrez, mais aujourd'hui, je la trouve très très limitée. Je me rappelle encore très bien l'enseignement que j'entendais il y a plus de 45 ans. J'en ai pour preuve la définition sur l'Église du nouveau dictionnaire biblique, qui n'est plus nouveau du tout, il a au moins 45 ans, mais il reste un très bon ouvrage. Et la définition, si vous allez chercher il y a 45 ans, 5 ans en arrière, qu'est-ce qu'on disait l'Église ? Ah, l'Église, elle est appelée hors de. Vous avez déjà entendu ça ? Ce que j'entendais à l'époque, comme connotation, c'est de dire que l'Église n'est pas une invention humaine, ça c'est, on l'a dit ce matin, on le redit, que c'était l'œuvre de Dieu. On coche, on est d'accord, on met un petit vu. Et que nous étions invités à nous éloigner du monde pécheur. Là, on commence déjà un petit peu à grincer des dents. Qu'est-ce que ça veut dire ? Invités à nous éloigner du monde pécheur. Nous distancer de l'esprit du monde, oui, mais on reste dans le monde. Pour vivre l'Église, donc appeler hors d'eux à quitter ce monde pécheur pour nous retrouver. Vous comprenez ? Pour nous retrouver entre chrétiens. Dans nos murs ecclésiaux, puis on ferme les stores, puis on est bien entre nous, puis on se protège contre les vents contraires et contre les mauvais esprits de ce monde. On se protège. Il y avait cette tendance-là, mes amis, à l'époque. Le Seigneur n'a jamais... C'est pour ça que je vous dis, c'est vrai et c'est faux. Pour moi, l'Église appelée hors d'eux a 2 significations. Appelée hors de l'esprit du monde, mais appelé hors de ces murs ecclésiaux. Je vous transmets cela, ne l'oubliez pas. Votre vieux pasteur qui a fait 10 ans ici. On est appelé hors de l'esprit du monde, mais aussi on est appelé hors de nos murs ecclésiaux pour aller. Je crois à ces 2 essais de définition. Le Seigneur n'a jamais voulu que l'Église soit créée dans le but qu'elle se coupe du monde. Au contraire, on se rassemble pour se fortifier, pour réjouir le cœur de nos seigneurs, on le célèbre, il en est digne. Et à un moment donné, on quitte nos 4 murs ecclésiaux pour sortir, pour aller à la rencontre de nos contemporains. Et en ce sens, et c'est moderne aujourd'hui le langage, mais souvent on ne le vit pas beaucoup, on devient église missionnelle. J'ai entendu beaucoup de théoriciens qui me parlent de l'église missionnelle. Ils nous font ces définitions formidables, on a envie de prendre des notes. Mais je ne les vois jamais, pas beaucoup sur le terrain, très franchement. Pas beaucoup sur le terrain. À la fin de chaque culte, le dimanche, en tant que membre de l'Église, on est envoyé. Vous allez être envoyé par Rémi ce matin, notre président de culte, pour rayonner, pour témoigner, une église qui se rassemble. Mais ensuite, avec nos actes, on est envoyé pour être une église en mouvement, une église qui sort en marche pour aller à la rencontre de ce monde qui a besoin d'un message d'espérance. Jésus a dit au verset 18, on revient, « Je construirai mon église », ça dépend des traductions. Cela fait 2000 ans, mes amis, que le Seigneur continue encore, et il n'a pas terminé. Ici, on a terminé le bâtiment, avec encore des choses extérieures et tout. Vous allez faire chaque fois un petit peu plus, et chaque fois top, bravo. Jésus, lui, n'a pas fini du tout son ouvrage. Il veut une belle église, il veut une belle épouse. Il continue de façonner son chef-d'œuvre. Je construirai mon église. Ce n'est pas ton église, c'est mon église. C'est l'église de Jésus-Christ. Cela fait 2000 ans que Jésus a commencé à bâtir son église et il continue encore et encore de la construire. Il n'y a aucun entrepreneur sur cette terre, dans toutes les générations, qui a mis si longtemps pour construire son ouvrage. Et Jésus continue sa construction. L'église, vous êtes, nous sommes un chantier. Nous sommes en construction. Il est l'entrepreneur. L'église, elle est invitée à proclamer la vraie liberté. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié. On est invité à proclamer la guérison. Parfois, je me dis que Jésus a été très courageux de bâtir l'église avec des gens tellement imparfaits que nous sommes. Vous ne trouvez pas? On dit que dès qu'on entre dans l'église, dès que moi j'entre dans l'église, je vais entrer, on m'a demandé, alors, ça sera quoi ta prochaine église? J'ai dit, je vais être SEF pendant une année, sans église fixe. Je n'ai pas dit SDF. Donc je vais faire un peu le tour, mais à un moment donné, je vais faire un choix. Mais dès que je vais entrer dans cette église, elle sera encore plus imparfaite parce que je vais rejoindre la communauté en question. C'est tellement bon de nous bénir. Mon dernier entretien, vendredi, en fin de journée, avec des équipiers de prière, on a béni une nouvelle famille qui était là à l'inauguration et qui avait besoin, pour différentes raisons, d'être accueillie, rencontrée et bénie. On a la mission, la vocation de bénir les amis. Vous ne trouvez pas que c'est formidable? De bénir le Seigneur, de bénir les autres dans l'Église, de bénir le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ avec E majuscule, mais de bénir aussi cette génération. Et puis, et je termine, et l'Église, elle exerce aussi, c'est un mot un peu piège, mais ça sera incomplet si je n'en parle pas. L'Église de Cossonay, elle exerce aussi, évangélique de Cossonay, j'ai oublié de mettre évangélique. J'avais dit de dire bien Église évangélique de Cossonay parce qu'on n'est pas l'Église de Cossonay, on n'est qu'une partie. Eh bien, l'Église évangélique de Cossonay exerce aussi son autorité spirituelle pour la suite. Parce que c'est quand même très interpellant ce que nous voyons au verset 19. L'ennemi fait tout ce qui est en son pouvoir depuis le début pour détruire l'Église. Vous le savez, quand il y a des divisions, quand il y a des gens qui quittent l'Église en claquant la porte, quand ils disent « ne me parlez plus jamais, que soi-disant j'ai des frères et sœurs dans l'Église, j'ai été blessé. » Alors des fois, la personne, elle se victimise aussi. Il y a de tout pour faire un monde. L'ennemi fait tout ce qui est en son pouvoir pour détruire l'Église, mais il n'y arrivera pas. Le Seigneur nous donne en cette matinée une nouvelle autorité spirituelle. Conférez à chaque croyant que vous êtes, afin de ne pas nous laisser contaminer par le découragement, l'incrédulité, la peur, l'intimidation, et j'en passe. L'Église prend position contre les puissances visibles et invisibles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons donc la mission de lier, et c'est le texte, c'est écrit sous vos yeux, de lier les puissances du mal. Et nous le faisons. Quentin, dans les soirées interface, il a cette sensibilité. Souvent, tu vas prendre position à un moment donné. Tu sens ça. Hein. Souvent, j'ai remarqué dans l'atmosphère spirituelle, tu sens qu'à un moment donné, on doit se démarquer. On doit couper, on doit prendre position. C'est vrai aussi dans nos familles, dans notre entourage, dans nos lieux de vie, professionnels aussi. Nous pouvons alors dire, maintenant, ça suffit, jusque-là, mais pas plus loin. Parce que Dieu dresse en face de nous une table en face de l'adversité. Au nom de Jésus, par son sang qui a coulé au bois du calvaire, par sa parole plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Le nom de Jésus qui libère, délivre, sauve encore et encore. Et nous avons la mission, et ça moi je ne l'avais pas interprété comme ça pendant longtemps, quand on était dans des milieux un petit peu très délivrance, on disait que tout ça lié, délié, c'est que pour des questions de délivrance. Je ne vois plus ça comme ça aujourd'hui. Lié, oui, contre les puissances, prendre position, mais délié, c'est que le Seigneur fait de nous des porteurs de vie pour annoncer la vraie liberté en Christ. Et nous pouvons dire à nos frères et sœurs et les personnes que nous côtoyons que tu peux être délié de tout ce qui a entravé ta vie, de tout ce qui a été un enfermement, de tout ce qui t'a détruit, piégé. Nous pouvons au nom de Jésus prononcer que le Seigneur les délie pour entrer dans un chemin nouveau et d'espérance. Et enfin, alors il leur recommanda de ne dire à personne qu'il était le Christ. Car le temps n'était pas encore venu de publier cette nouvelle au moment de cette conversation, lorsqu'elle a eu lieu. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas dire qu'il est le Christ? Bien sûr qu'il faut dire qu'il est le Christ. Parce que c'est le temps favorable. Parce que c'est le temps de Dieu. Parce que c'est le temps, j'ai reçu pour vous, d'une nouvelle moisson. Mais pas seulement, écoutez bien, pas seulement parce qu'on est content qu'il y a plus de construction, donc logiquement, des chrétiens qui habitaient le centre-ville de Lausanne, ils veulent un petit peu s'aérer, donc ils vont acheter un joli appartement ici, donc on aura plus de chrétiens, et puis on va former une sympathique amicale où on a grandi avec 40 copains, copines chrétiens de plus. Une nouvelle moisson avec aussi des nouvelles brebis du Seigneur, des personnes qui vont donner leur cœur à Jésus-Christ. Quelle joie dans Alpha Live lorsque des personnes se tournent vers le Seigneur. Jésus a dit, et je vous promets que c'est le mot de la fin, « Je construirai mon Église. » Et si tu es en construction, c'est loin d'être fini. Le Seigneur considère l'essai comme un chantier en train d'être... C'est son ouvrage et c'est lui qui sera l'entrepreneur fidèle à tout moment. Que Dieu vous bénisse.